À Rencontre Spirituelle, aujourd'hui, il sera question de la Sainte Vierge et le mois de mai. Et j'ai pensé vous consacrer toute une émission sur les prières connues ou très anciennes que l'Église et que l'ensemble des chrétiens, des catholiques en particulier, adressent à la Très Sainte Vierge, comme le « Je vous salue Marie », évidemment. Mais il y a aussi l'Angélus, que l'on récite presque là, à Radio Une Marie à midi. Et puis, d'autres prières mariales très connues, comme ce que nous allons entendre au cours de l'émission, comme le Salve Regina, l'Alma Redemptoris Mater et des chants en latin. Je vous en donnerai les origines, les traductions françaises. Vous savez que l'un des plus grands penseurs de ce siècle, Maurice Blondel, disait en deux mots que la dévotion à Marie n'a jamais cessé d'attirer et d'inspirer non seulement les plus grands saints, mais les plus éminents docteurs, dit Maurice Blondel, les maîtres les plus savants et les plus spéculatifs. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver chez aux éditions Médiapole, c'est paru récemment, un beau livre qui s'intitule « Marie, première église » et c'est signé par nul autre que le cardinal Joseph Ratzinger et Hans Urs von Balthasar. C'est vous dire que la grande tradition mariale dans l'Église est très riche et très belle. Certains la méprisent. On rencontre des chrétiens qui boudent un peu la Sainte Vierge. Ces chrétiens-là se demandent toujours si la dévotion qu'on a pour elle n'est pas exagérée, et puis s'inquiètent de cette espèce de disproportion énorme qu'ils croient percevoir entre le peu qu'on dit d'elle dans l'Évangile puis la place énorme qu'elle tient aujourd'hui dans l'Église. Mais il semble qu'il manque trop d'imagination, parce qu'au fond, nous voici devant qui, quand on parle de la Sainte Vierge? On est devant une femme dont le Fils est Dieu. Je répète, c'est très simple, vous allez dire, tout le monde sait ça, mais c'est parce qu'on n'y pense pas assez. Nous sommes devant une femme dont le Fils est Dieu. C'est stupéfiant, c'est vraiment stupéfiant. Son Fils est Dieu, on pourrait l'épeler en lettres majuscules, Dieu, D-I majuscule, E majuscule, U majuscule. On va essayer de peser ces mots brièvement, plutôt de nous laisser enlever par eux, nous laisser emporter par tout ça. Comme l'explique très très bien le père Pierre Régamé, que j'ai connu, un dominicain qui était très, très, très intéressé par les arts, hein, les grandes revues d'art sacrées, et qui a publié, ce dominicain, de très beaux livres. Malheureusement, il est décédé. Je voulais l'interviewer à Rencontre, et il ne voulait pas. Il se trouvait trop vieux à la télévision. Hein. Alors, nous sommes donc devant son fils qui est Dieu, et devant cette femme qui est la mère de Dieu. Dans quel abîme cela nous plonge-t-il quand on y pense? Et on parle ordinairement à la légère, mais du jour où l'on s'aperçoit de ce que l'Évangile montre, avec tant de simplicité, on ne peut plus rester indifférent. Si l'on croit vraiment à l'incarnation, Dieu qui s'incarne dans le temps, dans un enfant qui grandit, qui est Jésus, qui nous a dit les choses les plus sublimes et les plus belles. Si l'on croit que Dieu fut vraiment homme de cette femme, elle apparaît vraiment comme sa mère. Hein? Il y a entre elle et Dieu une communication, une correspondance qui existe entre une mère et son fils. On sait comme c'est beau, c'est la fête des mères dans quelques jours. Et nous, les pères, bien, on sait ce que c'est aussi. Nous qui avons souvent un cœur de mère. Ou nous croyons des fables, alors, et voilà une femme que Dieu a suscitée, Créateur Tout-Puissant, pour la faire à sa convenance. C'est pas des fables. Quelle est donc cette femme? Il ne s'agit pas simplement de s'exclamer. Il faut s'interroger sérieusement, puis il faut voir que, laissés à nous-mêmes, on pourrait risquer de concevoir d'elle les idées les plus extravagantes. Il y a des gens dans l'Église qui voudraient absolument, et je m'excuse de le dire, faire de la Vierge la médiatrice de toute grâce. Elle l'est peut-être, mais le proclamer, ce serait plutôt terrible. Vous savez que ce dogme proposé, depuis quelque temps, créerait des ruptures sérieuses chez les théologiens catholiques. Et au mois de juin 1997, l'Osservatore Romano, le journal, pour ainsi dire, officiel de l'Église, du Vatican, ou disons officieux pour ne pas trop engager le Vatican, rapportait que le Saint-Siège a demandé à une commission de 23 mariologistes, des spécialistes de la Très Sainte Vierge, qui étudient avec beaucoup d'amour tout ce qui entoure Marie, pour qu'ils étudient, eux, la proposition de ce dogme de Marie médiatrice de toute grâce. Et ces grands spécialistes de la théologie de Marie, ces grands universitaires et tout ce que vous voulez, on croirait qu'ils auraient pu applaudir devant cette initiative, mais par un vote de 23-0, la commission a demandé que l'on ne promulgue pas ce nouveau dogme. 23-0. C'est grave. Il faut donc pas aller vers les idées les plus extravagantes. Mais rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Et elle-même, elle s'écrie, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera mère de Dieu, « Celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses. » Mais lesquelles, jusqu'à quel point, il faut que Dieu dirige nos intuitions, limite nos excès aussi. Il faut limiter nos excès. Et nous sommes si étonnés que rien ne nous étonnera de ce que nous découvrirons, car Marie est un monde inattendu. C'est un monde inattendu, la Sainte Vierge. C'est immense et c'est beau, mais c'est demeure une créature de Dieu la plus belle. On n'y s'y reconnaîtra pas. Tout de suite au premier coup, la chrétienté en son ensemble a mis des siècles et des siècles à prendre une conscience progressive de son ministère, puis on va le voir à travers des prières qu'on lui a adressées à travers les siècles. Et au seuil de nos recherches, là, il y en a qui, parmi nos contemporains, qui veulent nous arrêter un peu trop vite. Ils prétendent qu'ils ne peuvent pas s'émerveiller comme nous. Mais voyons, c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi suffisamment. Nous n'avons rien d'extraordinaire à imaginer à Marie. C'est tout simplement de lire les textes et de regarder, et d'observer, et de penser, et de réfléchir. Nous devons nous la représenter très humainement, je l'ai dit, je le redis. Mais à supposer que son fils soit Dieu incarné, elle n'est jamais la mère que de son humanité, évidemment. Dieu est tellement au-dessus des êtres créés que tous sont comme rien devant lui, quand on y pense vraiment. Et peu lui importe celui qu'il choisit. A-t-il besoin d'une femme pour revêtir une nature humaine? Aucune ne sera jamais digne d'être sa mère, finalement, quand on y pense. Et cette correspondance que certaines personnes requièrent entre un fils et une mère ne vaut pas ici. Elle exigerait l'impossible. C'est impossible, c'est trop grand. Elle vous ferait faire de Marie une déesse. Or, Marie n'est pas une déesse. Et sous prétexte d'honorer ainsi Dieu son fils, il y a des gens qui seraient prêts à commettre le plus horrible sacrilège. Et me semble que voilà exprimer en toute sa force l'objection dont, sans toujours se la formuler clairement, beaucoup de personnes sont gênées dans leur élan vers la Sainte Vierge. Tant qu'on ne l'a pas surmontée, on ne peut avoir le moindre sens du mystère de Marie. Cette difficulté vient de ce que l'on conçoit les rapports de Dieu avec l'humanité d'une manière violente, qui est antichrétienne, et comme il arrive le plus souvent, lorsqu'on croit se faire de Dieu des idées sublimes, en réalité, on le rabaisse. Ce Dieu, qui est si transcendant que tout est également indigne devant lui, bien, il est une création humaine, tout à coup. Le Dieu de l'Évangile respecte les valeurs des êtres qu'il a créés, il en a grand souci, puis il vêt plus que royalement cette petite fleur. On le voit dans les campagnes, ou dans nos jardins. Il nourrit toutes sortes d'oiseaux, même les corbeaux. Il s'intéresse combien plus encore à nous, ses enfants. Et un être qui aperçoit comme nivelé indistinctement ce qui se trouve sous lui, que sa grandeur est grossièrement relative. À notre mode, Dieu n'est pas sur une si haute montagne que du sommet tout ce qui est au-dessous lui paraisse s'aplanir. Non, non, sa grandeur infinie, à Dieu, ça lui permet de se rendre intime aux moindres êtres, les plus petits, puis d'en respecter les différences. Il est tout près de chacun, chaque homme, chaque femme a sa vocation particulière. Nous sommes irremplaçables aux yeux de Dieu, et Dieu a envers nous une conduite originale. Il nous équipe de moyens naturels, de grâces, de vertus, proportionnés à nos vocations. Et s'il s'empare d'un de ses élus pour en faire un prophète, il purifie avec un charbon ardent la bouche, hein, quand je vous ai parlé d'Isaïe l'autre jour. Oui, avec un charbon ardent, il purifie la bouche qui doit émettre ses oracles. Si ceci est un précurseur, là, comme Saint Jean-Baptiste, il le sanctifie dès le sein de sa mère, Élisabeth. S'il fonde son église, il l'établit sur une pierre, Saint-Pierre, à laquelle il donne assez de consistance pour communiquer sa fermeté à toutes les autres qui prendront appui sur elle, tous les papes, 260 et quelques papes. Que ces trois exemples, Isaïe, de Saint Jean-Baptiste et de Saint Simon, Pierre, nous suffisent, me semble à manifester cette grande loi, la grande loi des mœurs divines envers nous tous, chacun de nous. Il n'est pas un cas que nous présente la Bible qui ne se vérifie en détail. Dieu ne prend pas n'importe quel instrument pour ses œuvres. Il le prépare, il l'adopte, et sa mère ferait-elle exception? Oui, on peut dire sa mère, la mère de Dieu, car le Christ n'est pas un homme comme les autres, né de façon naturelle, présentant seulement une exceptionnelle innovation morale. Non, non. Comme le Jésus de Renan, puis le Jésus de tant de gens qui nous écrivent des livres. J'ai acheté une revue récemment encore. On rabaisse Jésus à rien du tout. Non, il n'est pas un homme qui ait reçu lors de son baptême une certaine union spirituelle avec Dieu, union du reste mal définie. Le Jésus de certains protestants modernes aussi, malheureusement, puis de quelques catholiques, il n'est pas un homme en qui la divinité subsiste de telle sorte qui... Il y a en lui deux personnes, la divine puis l'humaine. C'est une erreur qui est apparue au 4e, 5e siècle, là. Nestorius, Théodore de Maupassant, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est tellement répandu. L'Évangile, candidement entendu, nous le présente comme une personne parfaitement une et qui est celle du Verbe divin. Puis il n'est pas un homme en qui est Dieu, il est Dieu. Et ça change tout notre rapport avec Marie. Vous savez, quand on lit dans le journal un article sur Alain Finkielkraut qui nous dit à nous séparer de notre héritage, comme le croit notre temps, est-ce qu'on est plus libre, plus lucide et plus ouvert? Il dit que le mot conservateur est devenu une insulte aux yeux de tous, hein? Et c'est triste. Et il rappelle la parole de Peggy, une révolution est un appel d'une tradition. Une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite. Et la tradition plus parfaite dans l'Église, c'est bien de vénérer Marie comme la mère de Dieu. Mais qui est la Vierge Marie? Et selon la Bible, quand on lit bien dans la Bible, Marie est la femme que Dieu a choisie pour donner naissance au Verbe éternel. Donc elle est la mère de Dieu, une personne divine qui a assumé la nature humaine, son fils. Les trois évangiles nous parlent d'elle. Il y a Matthieu qui raconte tous les problèmes que ça a suscité chez Saint Joseph, hein, lorsqu'il a su que sa femme était enceinte, que sa Marie était enceinte. L'évangéliste nous révèle la conception virginale de Jésus, car il n'y a pas de père humain dans l'incarnation du Verbe de Dieu. Puis la mère de Jésus est vierge, et Matthieu raconte aussi l'adoration des mages. Ils viennent voir l'enfant Marie, là, sa mère, et ils se prosternent, et ils rendent hommage à l'enfant. Vous direz que c'est un midrash. Il s'est inspiré par l'Esprit Saint, et Luc, pour sa part, il raconte l'annonciation par l'ange Gabriel. À la naissance de Jésus, puis Marie s'étonne d'une conception virginale, mais elle accepte, dans l'obéissance, le rôle difficile de mère du Messie. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Après la nativité, ben Luc raconte la présentation de Jésus au temple de Jérusalem par ses parents, puis un homme inspiré de Dieu qui s'appelle Siméon et qui fait une prophétie qui dit « Une épée te transpercera l'âme ». Il annonce l'angoisse de Marie. Lorsque Jésus, âgé de 12 ans, hein, s'est séparé de ses parents pendant 3 jours à l'occasion d'un pèlerinage au temple, vous connaissez ça? Et cet événement anticipe la séparation de Jésus puis de sa mère à la croix. Et tout ça se tient, et c'est d'une beauté grandiose. C'est superbe, et on ne se fatigue pas de lire ces textes, de les méditer. Et nous allons maintenant entendre, justement, le très beau Salve Regina, qui nous dit « Salut, Reine, Mère de Miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Vers vous, nous crions exilés, fils d'Ève. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, cette vallée de larmes. Ô vous donc, notre avocate, tournez vers nous, ses yeux, vos yeux pleins de miséricorde. Et Jésus, le fruit béni de vos entrailles, quand prendra fin cet exil, montrez-le-nous. » Ça date, ça, d'environ le 11e siècle. C'est le pape Jean-Paul II qui nous disait, il n'y a pas longtemps, « Soyez fidèles aux exercices de la piété mariale traditionnelle dans l'Église. » La prière de l'Angélus, le mois de Marie, et tout particulièrement le rosaire. Mais on pourrait se demander si l'intercession de Marie puis des saints a un fondement biblique, et ça nous est reproché parfois par certains protestants, et même par certaines personnes qui préfèrent prier directement notre Seigneur, le seul grand intercesseur, le prêtre qui intercède pour nous, Jésus, le Fils de Dieu, le Christ. Mais l'Ancien et le Nouveau Testament, comme l'a écrit M. Pierre Bougie dans un beau texte, l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent clairement le principe et la pratique de demander à nos frères de prier pour nous. Savez-vous qu'on trouve ça dans le livre de la Genèse? Dieu ordonne au roi philistin Abimélec de demander les prières d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui le demande. Il l'ordonne même. « Il priera pour toi et tu vivras. » C'est le texte de la Genèse au chapitre 20. Ça commence vite, commence tôt au début de la Bible. Dans le livre des psaumes, bon, on passe plus loin. On dit que le Seigneur a eu pitié des Israélites coupables au désert parce que Moïse intercédait pour eux. C'est dans le psaume 105-106. Dans le récit du livre Job, je suis en train de préparer une émission pour lundi prochain, Dieu dit aux amis de ce pauvre Job qui a souffert, « Mon serviteur Job priera pour vous et j'aurai égard à sa prière. » C'est au chapitre 42 du livre de Job, si vous voulez le vérifier, là. Dans ses lettres, saint Paul demande continuellement des prières pour lui-même. Par exemple, quand il écrit aux Romains, dans sa lettre aux Romains, il dit « Luttez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi. » Donc, on peut fort bien prier la Sainte Vierge. Serait-il normal de supposer que Marie, puis les saints, qui sur la terre priaient pour leurs frères, leurs sœurs, ne s'intéresseront plus à eux et à elles une fois au ciel? La tradition chrétienne, il me semble, enseigne au contraire que l'intérêt des saints au ciel va augmenter au centuple, et elle augmente au centuple, parce qu'ils connaîtront alors plus pleinement nos besoins. Ils connaissent bien mieux nos nécessités puis le désir de Dieu d'exaucer leurs demandes. Si les apôtres et les martyrs, dit saint Jérôme, obligés pendant leur vie de s'occuper d'eux-mêmes, peuvent prier pour les autres, comment ne le feraient-ils pas davantage après avoir emporté la couronne du ciel? C'est saint Jérôme écrit il y a plus de 1500 ans. Il ajoute un seul homme, Moïse, obtient le pardon pour 600 000 hommes armés. C'est dans l'Exode au chapitre 32. Saint Étienne, premier martyr, prie pour ses bourreaux. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres. On peut appeler ça la première histoire de l'Église, qui est juste après les Évangiles dans votre Bible. Réunis au Christ, est-ce qu'ils vont être moins puissants? Moi, j'invoque continuellement ma mère et mon pauvre fils qui est mort il y a 5 ans, dans quelques jours. Saint Paul dit que 276 âmes furent accordées à ses prières quand elles étaient avec lui dans le navire, encore dans le livre des Actes. Est-ce qu'il va fermer ses lèvres après la mort? Est-ce qu'il murmurera pas une parole pour ceux qui, à travers le monde, ont cru à son évangile, à sa prédication fantastique, ce plus grand prédicateur de l'histoire, Saint Paul? À l'intercession des saints, on peut ajouter celle des anges aussi. C'est très à la mode aujourd'hui. Hein? Il prie ses anges et ses saints pour nous. Nous le savons par les paroles de Raphaël à Tobie dans le livre de Tobie dans la Bible. Lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'est moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur. Alors si les anges intercèdent pour nous, Marie, Mère de Dieu, et les saints qui ont vécu si intimement la vie divine en eux, qui nous sont unis par le lien de la nature humaine, puis le lien surnaturel de la communion des saints, il me semble qu'ils ont le même rôle admirable de solidarité. Bon, s'il y a des gens qui peuvent pas comprendre ça, je ne sais pas quoi dire. Convient tout particulièrement aussi de louer la Vierge Marie. Sans nécessairement la prier, mais simplement l'honorer, la louer. Parce que c'est la forme de prière qui est indiquée par la Bible. Comment ça? Mais dans l'Évangile de Saint-Luc, on trouve le cantique d'action de grâce de Marie, et on connaît ça sous le nom du Magnificat. Hein? Ceux qui vont aux vêpres, dans les paroisses des vêpres de plus en plus, comme à Notre-Dame-des-Neiges, à Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, chez les Pères du Saint-Sacrement, au métro Mont-Royal, etc. Il y a des vêpres le dimanche sublime, à la cathédrale, dans l'après-midi après un concert d'orgue, etc. Ça revient un peu les vêpres, on chante le Magnificat. Qu'est-ce que c'est que ce Magnificat? C'est lorsque la Vierge est enceinte de Jésus, elle va rencontrer Zacharie et Élisabeth, sa cousine, qui sont les parents de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et Élisabeth est enceinte, et Marie aussi. Et là, elle entonne le cantique qui commence par les mots « Mon âme exalte le Seigneur ». Magnificat, quoi. « Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur hein? », dans Saint-Luc, au tout début de Saint-Luc. Aussi, elle fait une prophétie sur la prière de l'Église à venir. Puis elle dit, écoutez bien, « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Alors nous sommes dans la bonne ligne, nous, catholiques et orthodoxes, et certains anglicans, et de plus en plus certains luthériens, et d'autres chrétiens qui commencent à comprendre qu'il est normal de honorer la Sainte Vierge, de la glorifier. Comme on va glorifier nos mères dimanche prochain, quoi. Tout doucement, tout simplement. Elle reprend, Marie, une parole de Léa, femme de Jacob, qui avait dit « Quel bonheur, les femmes me diront bienheureuses », c'est dans la Genèse au début de la Bible. Mais ici, la Vierge précise que ce seront toutes les générations. Tout. Aujourd'hui encore, en cette fin de millénaire et en ce début du troisième millénaire. Toutes les générations à venir vont la dire bienheureuse. C'est incroyable, sublime, sublime. Durant sa vie publique, Jésus d'ailleurs a loué une attitude spirituelle. Hein? L'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique, pour lui, c'est fondamental. Saint Luc d'ailleurs le raconte, hein? Vous vous souvenez de ça. Alors qu'il parlait, une femme dans la foule éleva la voix et dit, « Heureux le sein qui t'a porté les mamelles que tu as sucées. » Mais Jésus répliqua, « Combien plus heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et ce qui fait la grandeur de Marie, c'est qu'elle a surtout écouté la parole de Dieu, elle en a vécu, elle l'a gardée. C'est encore plus grand. C'est Jésus qui le dit. On note donc que Jésus n'insiste pas sur les liens de génération avec sa mère, il insiste plutôt sur son portrait spirituel. Et déjà, à 12 ans, lorsque ses parents le retrouvent dans le temple de Jérusalem, il prend une distance de sa mère au point de vue de la chair. Et il dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Il a sans doute rendu Marie capable d'être unie à Dieu selon la foi, encore plus que selon la chair. Hein? Il était d'accord avec le cri d'Élisabeth à la Visitation. « Heureuse, heureuse, oui, celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est encore dans Saint-Luc. Puis dans les récits de l'enfance, là, Marie apparaît conforme au modèle des justes de l'Ancien Testament, de la Bible des Juifs, qui est notre Bible aussi. et surtout obéissante dans la foi aux inspirations du Seigneur. On dit souvent à Notre-Dame du oui. Elle a dit oui, elle a toujours dit oui. Et nous qui disons si souvent non. Hein. Alors Jésus l'a loué à cause de cela. Et pour nous, il est normal de faire de même. Et c'est une pratique absolument recommandable de recourir à la Mère de Dieu pour obtenir les faveurs du Seigneur. Hein. C'est normal. C'est pour ça que nous allons écouter maintenant un beau chant qui est Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum, qui est un très, très, très beau chant, nous rappelle que la Vierge est vraiment la mère, la reine du ciel. Ave Regina Celorum. C'est possible que ce soit de Saint Bernard. Hein? Salut, reine des cieux. Salut, dame des anges. Salut, racine. Salut, porte par où la lumière a paru dans le monde. Salut, Vierge glorieuse, qui surpassez toutes les autres en beauté. Oui, je vous salue, ô toute belle, et pour nous, suppliez le Christ. Et aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de parler de Marie, ma mère, notre mère, en ce début du mois de Marie, et de relever ainsi certains chants, certaines prières qui lui sont adressé par l'Église depuis souvent très longtemps, depuis même le début du christianisme presque. Vous savez que une pratique absolument recommandable de recourir à la Mère de Dieu pour obtenir les faveurs du Seigneur. Vous savez qu'au IIIe siècle, on récitait déjà le sub tuum, qui veut dire sous ta garde. Car il est tout à fait opportun, tout à fait, dit Pierre Bouget, de s'adresser à elle quand on attend de Dieu les biens de l'âme et du corps. La prière la plus connue à la Vierge, le « Je vous salue Marie », dont je vous parlerai tout à l'heure, mais à la suite les paroles de l'ange Gabriel et celles d'Élisabeth. Est-ce qu'on y a déjà pensé que quand on récite un « Je vous salue Marie », on récite la Bible, on récite le Nouveau Testament, on récite des verset de Saint-Luc. C'est pas... On va pas chercher ça ailleurs. C'est une louange qui est complétée par une prière de demande et on ajoute après Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je trouve ça très simple et très beau. C'est très très simple. Celui qui prie demande le salut, puis recours à l'aide de la Vierge Marie. Cette attitude me semble de confiance et reprise par toutes sortes de prières, de chants liturgiques ou populaires à la Mère de Dieu. Le sub tuum, c'est avant le concile de Nicée que remonte cette prière à la Sainte Vierge, qui est encore très populaire dans bien des milieux aujourd'hui. Mais elle tend à disparaître parce qu'on la récitait en latin, on la savait par cœur, toute l'Église la savait par cœur, il y a quelques années, sub tuum presidium. Mais c'est la plus antique des prières mariales, savez-vous ça? Je vous la donne dans sa teneur originale, telle qu'on l'a trouvée en 1938 sur un papyrus du IIIe siècle. Vous avez bien entendu, du IIIe siècle, donc dans les années 200. Dans une bibliothèque de Manchester, en Angleterre. Et telle que, sauf une légère variante, l'ont conservé les liturgies grecques, puis le rite ambrosien. Le rite ambrosien, c'est la façon qu'on avait de célébrer la messe selon un rite qui venait, disait-on, de Saint-Ambroise de Milan, donc à Milan, dans le nord de l'Italie. Je me souviens d'être allé en 1950 à Milan, et le rite ambrosien était encore... utilisé. J'espère qu'il l'est toujours pour les chants qui ressemblent aux chants grégoriens. Ils sont très beaux, très 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 beaux. C'est magnifique. Voici donc le sub tuum. Nous pouvons prier brièvement. Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, ô Mère de Dieu. N'induisez pas en tentation notre prière, mais délivrez-nous du péril, seul chaste et béni. Un bénédictin a fait remarquer l'immense intérêt de ce tout petit texte qui fait même pas tout à fait 3 lignes. Car il est sans doute le plus ancien témoignage de la foi en la puissance médiatrice de Marie. Car on lui demande non seulement d'appuyer nos prières auprès du Christ, mais aussi de nous délivrer elle-même des dangers auxquels nous sommes exposés. C'est surprenant, hein? Puis, la présence de l'invocation que je viens de vous réciter, « Ô Mère de Dieu », prouve que cette appellation, dont les plus anciens témoins sont Origène, dont je vous ai déjà parlé, et d'autres docteurs d'Alexandrie en Égypte, n'était pas seulement un terme d'école, mais, au sens le plus fort, un texte ecclésiastique, dit ce bénédictin, consacré par l'usage liturgique. Et voilà donc la teneur actuelle du subtuum, tel qu'on l'utilisait il y a quelques années encore aux rites romains, et qui est toujours là, mais je ne sais pas pourquoi, moi je ne l'ai pas entendu depuis des années. Sous votre protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières dans nos besoins, mais de tous les périls, délivrez-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Vous direz que ce sont des prières si simples. Je vous la répète pour que vous la goûtiez peut-être davantage, certains d'entre vous qui l'ont peut-être pas aussi bien goûtée. Sans votre protection, nous nous réfugions. Sous votre protection, pardon. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières dans nos besoins, mais de tous les périls, délivrez-nous toujours, Mère glorieuse et bénie. Peut-on être plus sobre, hein? C'est extrêmement sobre. Et puis, il y a une hymne latine aussi, le Salve Regina qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis une autre qu'on appelle Mater Veni, c'est la mère du pardon. Parce que la Vierge est la mère du Sauveur qui a apporté au monde la miséricorde et le pardon. Alors il est convenable de la désigner par ses vocables, mère du pardon. Il y en a tellement d'autres si belles. Le souvenez-vous. Vous savez, notre prière occidentale, souvenez-vous, le memorare, comme on l'appelait quand j'étais jeune, doit avoir, comme tant d'autres formes de la piété mariale, son origine en Orient. Car on trouve chez les hauts frères grecs des prières qui en expriment toute la pensée, presque dans les mêmes termes. Voici un beau texte du memorare. C'est le souvenez-vous des Grecs. En vous, comme dans un palais splendide, l'architecte du monde a établi sa demeure. Et vous, parce que vous êtes la mère du Dieu Sauveur, vous avez rétabli sur sa base le tabernacle d'Adam, renversé par l'enfer. Qui donc, ô Mère de Dieu, qui jamais eut recours à votre protection sans être promptement délivré pour nous, hein? C'est pour, par vous. C'est à cause de cette phrase que cette prière était très, très, très populaire. Qui donc, ô Mère de Dieu, qui jamais eut recours à votre protection sans être profondément délivré par vous, qui vous implore sans trouver en vous une auxiliatrice si puissante que jamais sa confiance ne soit confondue. Personne, ô Vierge Mère de Dieu, n'a jamais eu recours à vous qui se soit éloigné de vous confondu. Tout au contraire, il vous voit accueillir sa requête. Il ne tarde pas à recevoir le bienfait qui répond pleinement à ses désirs. C'est une transformation de notre souvenez-vous. Puis, il y a aussi l'Alma Redemptoris Mater, hein, que vous connaissez bien, j'imagine. Ce sont des prières tellement, tellement connues, comme l'Ave Maristella. L'Ave Maristella, c'est une hymne merveilleuse qui est adoptée par l'Église pour les Vêpres de Marie. Elle apparaît au 11e siècle. Je vous la lis, c'est pas très long et c'est superbe. Salut, étoile de la mer, de Dieu, mère féconde, ensemble, toujours vierge, Heureuse porte du ciel, recevant cet ave de la bouche de Gabriel, établis-nous dans la paix. Retournant le nom d'Ève, Ève, Ave, Eva, Ave. Libère de leurs liens les coupables, rends la lumière aux aveugles et rejette nos maux. Obtiens-nous tous les biens, montre-toi, Mère, qu'il agrée par toi nos prières celui qui, pour nous, accepta d'être tien. Et ça se continue comme ça, Vierge singulière, Vierge douce entre toutes, libérée de nos fautes, rends-nous doux et chastes, accorde une vie pure, prépare un surchemin afin que, voyant Jésus, nous nous réjouissions éternellement. Sois louange au Dieu Père, hommage au Christ Très-Haut, ainsi qu'à l'Esprit Saint, aux trois honneurs uniques. Puis il y a le Regina Caeli, puis l'Alma Redemptoris Mater. L'Alma Redemptoris Mater, c'est très beau. Féconde mère du Rédempteur, porte toujours ouverte du ciel, étoile de la mer, viens au secours de ce peuple qui tombe. Oui, viens au secours de ce peuple qui tombe et qui veut se relever. Toi qui as engendré au grand étonnement de la nature ton saint engendreur, ô Vierge, avant et après la conception, recevant de la bouche de Gabriel cet ave, aie pitié des pécheurs. L'Alma Redemptoris Mater, ce serait l'œuvre d'un moine de Reichenau en Souabe, dont on a même le nom Hermann Contact, qui vivait au XIe siècle. Il y a bien d'autres prières. Bon, je vous ai donné l'Ave Regina Caelorum, mais il y a le Tota Pulchres, et vous êtes toute belle au mari. Il n'y a pas de tache en vous, c'est du XIVe siècle. Quelle est belle, quelle est suave dans les délices de votre conception immaculée. Puis il y a le refrain, la venez, venez du Liban, hein? On chantait ça, hein? Ah, ça rappelle des souvenirs, hein? Venez, venez du Liban, venez, venez du Liban. Venez, venez, vous serez couronnés. Vous vous avancez comme une aurore toute rutilante. On avait le sens de la poésie quand on était jeune. On chantait tout ça, puis on lisait le texte, la traduction en français dans notre gros missel de Don Lefebvre. Puis on était émerveillés. Hein? On avait 12 ans, 15 ans, et cette poésie nous enchantait. Vous vous avancez comme une aurore toute rutilante. Que c'est beau. Vous apportez les joies du salut. Par vous s'est levé le Christ Dieu, soleil de justice, ô brillante porte de la lumière. Et ça se continue dans une poésie presque surréaliste, comme le lys entre les épines. Ainsi, entre les jeunes filles, vous êtes la Vierge bénie. Votre vêtement brille, blanc comme la neige, votre visage est comme le soleil. En vous est l'espoir de la vie et de la vertu, toute grâce de voix et de vérité. À votre suite, nous courons à l'odeur de vos parfums qui nous attirent. Puis là, c'est le débordement de l'imagination, hein? Jardin fermé, fontaine scellée, mère de Dieu et paradis de la grâce. La pluie a cessé et disparu, l'hiver est passé, déjà les fleurs ont apparu. Sur notre terre, une voix s'est fait entendre, voix très douce, voix de la tourterelle, voix de la colombe. Prenez votre vol aux colombes infiniment belles, levez-vous, hâtez-vous et venez. Mon Dieu, on chantait ça au Collège Brébeuf en latin. Et on aimait ça. Oui, on aimait ça. Avant de terminer ce quart d'heure, je reviens au Mémorare. Cette prière qui est devenue si chère aux chrétiens, on le récitait partout. Elle apparaît au XVe siècle dans un texte beaucoup plus long, Ad Sanctitatis Tui Pedes, Dulcissima Virgo Maria, à tes pieds, ô douce, très douce Vierge Marie. Elle en était détachée à la fin du XVIe siècle, cette prière, où Saint-François de Sales, jeune, l'a récitée dans sa crise de scrupules. Elle n'est donc pas l'œuvre de ce pauvre prêtre Claude Bernard, selon une légende qui a vécu sous Louis XIII. Elle est en revanche très postérieure à Saint Bernard. Et d'ailleurs, elle existait, comme je vous l'ai dit, chez les Byzantins, chez les Grecs. Je vous l'ai lu tout à l'heure, mais la voici dans sa formule que nous connaissons tous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance, réclamer votre secours, ait été abandonné. Alors animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. Féconde Mère du Rédempteur, porte toujours ouverte du ciel, étoile de la mer, viens au secours de ce peuple qui tombe et qui veut se relever. Toi, qui engendré au grand étonnement de la nature ton saint engendreur, Vierge avant et après la conception, recevant de la bouche de Gabriel cet ave, oui, aie pitié des pécheurs. L'invitation n'est pas d'hier, d'aller vers Marie. Elle est devenue de plus en plus pressante au fur et à mesure que le mystère de Marie se révèle à nous. Le cardinal ermite Saint-Pierre d'Amiens, puis finalement Saint-Bernard de Clairvaux, puis il y a une béguine flamande aussi, Marie de Sainte-Thérèse. Puis enfin, surtout, on le connaît, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, fondateur des Montfortins. Tous ces gens et bien d'autres nous ont pris par la main et nous ont montré Marie. Ils nous ont encouragés à nous précipiter en elle, à nous livrer à elle, pour nous jeter en Dieu, pour nous livrer à Dieu. À Fatima, Marie elle-même nous pousse à nous consacrer à elle, à son cœur immaculé. Individuellement et collectivement, tout comme à Lourdes, elle avait demandé, en se mettant presque à genoux devant Bernadette, « Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Comme si c'était pour lui rendre service à elle, pour lui faire plaisir à elle, alors qu'il ne s'agit que de notre libération à nous, puis de notre bonheur. Hein? Mais telles sont les mœurs de Dieu qui est humble, puis de Marie qui est si humble. Si tu veux, si tu veux, c'est ce que Dieu dit à notre cœur, si tu veux. Ce sont des manières bouleversantes, c'est vrai. On est très peu habitué d'entendre les grands nous dire « si tu veux ». Mais eux, Dieu, Marie, les saints, sont si humbles. Tout ça, ça scandalisait le saint homme Job, dont je vous parlerai lundi, là, assis sur son fumier d'ordure. Pauvre Job, qu'est-ce donc que l'homme pour que tu le visites et le magnifies? Que tu presses ton cœur contre le sien. Est-ce qu'il y a un plus beau texte dans la Bible? Oh, oui, il y en a, mais c'est tellement beau ce texte de Job au chapitre 7, hein? Verset 17. Vous qui souffrez, relisez ce petit texte. Job, chapitre 7, verset 17. Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu le visites et le magnifies, que tu presses ton cœur contre le sien? Et nous jeter en Marie, nous consacrer à Marie, mais pourquoi donc, sinon précisément pour qu'elle nous jette en Dieu? Elle n'est en effet qu'un pur laissez-passer. C'est une transparence de lumière, Marie, une porte du ciel, comme on l'appelle. C'est Théophore qui disait, tu dis Marie, elle dit Dieu. C'est beau, hein? Ils ont une façon, les orientaux, les byzantins, de dire les choses qui sont superbes. Tu dis Marie, elle dit Dieu. Marie de Sainte-Thérèse, dont je vous ai parlé, la béguine, elle dit, je vois Marie comme ne faisant qu'un avec l'être inexprimable. Entendons-nous. Entendons-nous. Dès que je m'agenouille devant une de ces images, aussitôt je la vois absorbée en ce miroir intérieur qu'est Dieu. D'autres fois, il me semble traverser l'image qui est sous mes yeux sans y remarquer rien de corporel, et je vois Marie toute renfermée dans le secret de l'Esprit-Saint. Oh, Dieu s'est comme répandu en elle. Il l'a comblée et revêtue de lui autant que peut l'être une créature. Et mon bonheur est si grand que je ne sais plus que dire ou que faire pour magnifier Dieu et Marie. Je demeure en silence, dans le repos de l'amour. Les gens qui ont une véritable dévotion à Marie me disent que c'est comme ça qu'ils le ressentent. Oui. Je ne sais plus que dire et que faire pour magnifier Dieu et Marie. Je demeure en silence dans le repos de l'amour. Oui, Marie, la comblée de grâce, est sursaturée de Dieu, si on peut dire. On peut comprendre que se livrer à elle, se jeter en elle, ça puisse être une voie royale, la voie royale, offerte à notre petite portée pour atteindre la Trinité Sainte et nous laisser posséder par elle, selon notre vocation d'héritier de Dieu, sans oublier le rôle primordial, essentiel et fondamental du Christ. Mais comment nous prendre soi-même? Comment nous y prendre? Donc, pour nous laisser enchanter, saisir et travailler par Marie, c'est par la pratique fervente et persévérante du rosaire. Soit telle qu'on l'a connue au Moyen-Âge chez les chartreux, qui sont pas les moindres des moines, les cisterciens, les frères prêcheurs, les dominicains qui ont fourni à l'Église tant de très grands savants, soit telle que nous le connaissons aujourd'hui, le rosaire. Qu'est-il en effet notre rosaire, sinon l'école de l'émerveillement devant la splendeur de Marie? Et comme c'est beau un rosaire qui est bien récité. Quand le « Je vous salue Marie » est bien récité. C'est tellement important. Il faudrait vraiment que nous y arrivions et que nous soyons capables de réciter nos Angélus, comme celui de midi, qui est institué vers le 14e siècle et qui nous rappelle qu'en plein milieu du jour, on peut arrêter de travailler, prier Marie. C'est Léon Blois qui disait à sa fiancée, « Aussi longtemps que tu n'auras pas connu Marie et que tu ne lui auras pas donné ton cœur, tu seras dans les ténèbres parce que c'est en elle et par elle seule que le Saint-Esprit peut être obtenu. » Chose curieuse. Puis le Père Doncoeur disait, « Cette génération nourrie de dogmes et d'eucharistie fera de grandes choses, mais il lui reste de découvrir encore la Sainte Vierge. » Ce sont des paroles surprenantes. Bossuet dit, « Marie est mère de Dieu pour tout obtenir et mère des hommes pour tout accorder. » Et j'aime bien cette parole de Peggy pour terminer l'émission. Les prières à Marie sont des prières de réserve. Il n'y en a pas une dans toute la liturgie que le plus lamentable pécheur ne puisse dire vraiment. Dans le mécanisme du salut, l'Ave Maria est le dernier recours. Avec lui, on ne peut être perdu.